Et c'est l'heure du journal de la rédaction et d'accueillir Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Après bientôt 6 mois d'une guerre dévastatrice entre l'État hébreu et le Hamas, la pression s'accentue chaque jour davantage sur le gouvernement israélien.
Oui, ce matin, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a exigé l'arrêt de toute vente d'armes à Jérusalem. Et puis hier, c'est le président américain en personne, Joe Biden, qui a évoqué pour la première fois la possibilité de conditionner l'aide de Washington à des mesures face à la catastrophe humanitaire à Gaza. On se rendra en Turquie, où les maires d'opposition qui ont remporté la quasi-totalité des grandes villes du pays entament leur nouveau mandat avec déjà, pour certains d'entre eux, on le verra, de premières mesures à destination des femmes. Dans le cadre de notre journée spéciale, tous européens consacrés aux États baltes, on écoutera le ministre estonien de la Défense et puis l'actualité en France. On reviendra notamment sur l'adoption hier en première lecture de 2 textes écologistes contre l'avis du gouvernement. Enfin, on s'intéressera au cas rarissime d'une magistrate qui pourrait être présentée aujourd'hui à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Depuis l'attaque barbare du Hamas le 7 octobre dernier, le président américain avait toujours endossé le rôle de premier soutien d'Israël. Joe Biden en avait même fait une affaire personnelle et rien ne l'avait fait dévier, ni le bilan monstrueux des victimes civiles à Gaza, pas plus que les manifestations pro-palestiniennes qui accompagnent désormais chacun de ses déplacements. Lundi dernier encore, le jour de l'attaque contre les travailleurs humanitaires, Washington avait donné son accord à l'envoi de plus de 2000 bombes à son allié. Mais hier, le chef de la Maison Blanche en campagne pour un second mandat, cédant à une pression politique de plus en plus intense, y compris au sein de son propre parti, a donc pour la première fois infléchi sa ligne de soutien inconditionnel à l'État hébreu, véritable pierre angulaire de la politique étrangère américaine depuis plus d'un demi-siècle. Lors d'un entretien téléphonique d'à peine 30 minutes avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, Joe Biden a menacé de conditionner son aide à des mesures tangibles face à la catastrophe humanitaire en cours à Gaza. Et à l'évidence, le message a été reçu, du moins en partie, puisque quelques heures seulement après les remontrances du président américain, l'exécutif israélien a annoncé autoriser la livraison temporaire d'aide dans la bande de Gaza. Les précisions de Marwaman.
C'est le cabinet de guerre créé au lendemain du massacre du 7 octobre qui a décidé de prendre des mesures immédiates. Une décision prise sous une pression de plus en plus forte ces dernières semaines avant l'échange téléphonique hier entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu qui a été déterminant. Le président américain a exigé une augmentation spectaculaire de l'aide humanitaire et des mesures concrète, un appel inédit de l'allié américain qui a retenti comme une mise en garde et immédiatement entendu par Israël. 3 heures à peine après ce coup de téléphone, le Premier ministre israélien a donné son feu vert à des accès humanitaires temporaires dans la bande de Gaza assiégée et au bord de la famine. Durant cette conversation, Joe Biden a également souligné l'importance de mettre en place un cessez-le-feu immédiat afin de stabiliser et de protéger les civils innocents avant de donner les moyens aux négociateurs israéliens de trouver un accord sans délai avec le Hamas pour libérer les otages.
Et s'agissant des négociations justement pour un cessez-le-feu, si pour certains observateurs l'ampleur de cette guerre aurait pu offrir aux deux parties une nouvelle possibilité de faire la paix, pour l'heure celle-ci piétine, chacun décrivant tout ce qui se passe de manière à démontrer que l'autre partie ne peut pas être un partenaire crédible. J'ajoute, on vient de l'apprendre, que selon les conclusions de l'enquête sur la mort de 7 travailleurs humanitaires à Gaza lundi dernier, l'armée israélienne reconnaît une série de graves erreurs et démet les responsables de la frappe de leur fonction. Enfin, 6 mois bientôt après le début de cette guerre, la situation reste tragiquement effroyable. À Gaza, aux morts, aux souffrances, aux destructions, s'est rajoutée la faim et désormais la maladie, avec une recrudescence de cas d'infection virus de l'hépatite A en raison du manque cruel d'hygiène et de la surpopulation dans les camps de fortune où sont aujourd'hui entassés des centaines de milliers de déplacés.
Kiev avait promis de porter les combats sur le sol russe en représailles aux nombreux bombardements sur son propre territoire.
Et ce matin, Moscou affirme avoir neutralisé 53 drones ukrainiens dans plusieurs régions, notamment Rostov au sud, dont le chef-lieu abrite le quartier général des troupes de l'envahisseur. Et puis l'Ukraine dit également avoir détruit 6 avions russes dans une attaque nocturne. Enfin, parallèlement, et 2 semaines, jour pour jour, après l'attentat perpétré près de Moscou, revendiqué par l'organisation État islamique, le comité d'enquête russe a annoncé ce matin étudier une piste ukrainienne dont les téléphones portables des assaillants présumés auraient été trouvés, des photos d'hommes en camouflage avec un drapeau ukrainien, ce qui, à lire le communiqué, pourrait témoigner d'un lien entre l'attentat et le déroulement de l'opération militaire spéciale, selon l'euphémisme imposé par le Kremlin pour qualifier sa guerre en Ukraine.
Eux partagent une frontière d'environ 800 km avec la Russie, justement.
Oui, eux, ce sont les États baltes. Et depuis le début de la guerre d'invasion à grande échelle lancée par Moscou, ils craignent d'être les prochains sur la liste. Alors tout dépendra évidemment de l'issue du conflit, en l'occurrence. Et pour être totalement rassuré, il ne suffira pas que Kiev l'emporte, mais aussi que la Russie soit défaite. Sans quoi, disent-ils, Vladimir Poutine pourrait être tenté de flirter avec les lignes rouges de l'OTAN. C'est en tous les cas ce qu'a expliqué à Virginie Pironon le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur. Il est aujourd'hui l'invité de la rédaction.
Nous avons pu voir au fil des ans que Poutine fonctionne sur le même schéma. Peu de gens le pensaient prêt à attaquer la Géorgie. Il l'a fait en 2008. Peu de gens croyaient qu'il était prêt à attaquer l'Ukraine en 2014, la Crimée et les régions de Donetsk et de Luhansk. Il l'a fait. Et puis très peu de gens pensaient qu'il était prêt à entrer dans une guerre totale avec l'Ukraine. Il l'a fait. Alors pourquoi devrions-nous croire qu'il n'est pas prêt à tester les limites de l'OTAN et de l'Occident ?
Why do we have to believe that he is not ready to test NATO and the West?
You and the Baltic states. Vous et les autres pays baltes avec la Pologne. Vous avez toujours plaidé pour une ligne très offensive vis-à-vis de la Russie. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui plus écouté par vos partenaires européens?
At least this is what they say, that we should have listened earlier, Estonia and.
C'est du moins ce qu'ils disent, qu'ils auraient dû nous écouter plus tôt sur la Russie, nous, l'Estonie, et les autres pays qui pensent comme nous. Ce qu'on aimerait, en fin de compte, ce serait observer un changement en Russie et avoir un pays démocratique comme voisin. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant, car Poutine vient d'être reconduit à son poste, non pas élu, mais reconduit. Et malheureusement, il n'y a pas de nouvelles positives provenant des différents sondages qui montreraient qu'il y a un désir de changement en Russie. Cela signifie donc que la Russie, dans les années à venir, sera plus centralisée, plus soumise à la dictature. Et nous devons clairement faire face à cette menace ensemble en Occident. Tout le monde à l'Ouest, en ce moment, comprend mieux ce qui se passe et voit comment la Russie se comporte et voit quelles sont les conséquences lorsque nous poursuivons la même politique que celle que nous avons menée au cours des 30 dernières années.
And what are the consequences when we continue the same policy as we did in the last 30 years?
La défense de l'Estonie repose sur une armée de réserve et sur la Ligue de défense. Ce sont des civils, plus de 30 000 personnes prêtes à se battre pour le pays. Comment expliquer une telle implication ?
We have only 1 million people, 1 million Estonians, and a bit more. And
nous ne comptons qu'un million d'habitants, à peine plus. Et nous savons qu'il n'a jamais été facile de préserver notre langue et notre culture pendant l'occupation soviétique. Je vous donne un exemple. Avant la Seconde Guerre mondiale, notre économie était devant celle de la Finlande. Le PIB par habitant était plus élevé que celui de notre voisin finlandais en 1938 et en 1939. Puis, pendant l'occupation soviétique, il s'est effondré et a été divisé par 17 par rapport à la Finlande. Après l'indépendance, il était d'environ 1000 dollars et celui de la Finlande à 17 000 dollars. Et maintenant, nous les avons rattrapés et nous sommes au même niveau que l'Espagne. C'est un bon signe. Mais il faut tout de même du temps pour retrouver le niveau qui était le nôtre et ce que nous avons perdu pendant les 50 années d'occupation. Donc nous savons, nous, ce que cela signifie d'être sous occupation. Nous savons ce que cela signifie de perdre sa liberté et son indépendance.
Voilà, le ministre estonien donc de la Défense, Hanno Pevkur, il répondait à Virginie Pironon.
Au lendemain des élections municipales qui ont vu la défaite du parti du président turc, Recep Tayyip Erdogan, l'opposition vit désormais pleinement son printemps.
Et c'est le cas en particulier dans la capitale Ankara où le maire vient de lancer sa première initiative, distribution gratuite de protection hygiénique et vaccin contre le papillomavirus gratuit pour les moins de 30 ans. C'est une correspondance signée Marie-Pierre Véro.
C'est sa première initiative et Mansour Yavaş tient à la faire connaître. Des protections mensuelles gratuites pour toutes les femmes de la capitale. Elles pourront en obtenir un paquet chaque mois. Réélu très confortablement avec plus de 60% des suffrages, Mansour Yavaş a annoncé la nouvelle sur X, anciennement Twitter. L'accès aux serviettes hygiéniques est un droit pour toutes les femmes, écrit-il. C'est une des revendications de longue date des associations féministes en Turquie. Dans leurs manifestations, elles interpellent régulièrement l'AKP sous le slogan « Ce sont vos politiques économiques qui sont dégoûtantes, pas les menstruations ». La Turquie s'est retirée de la Convention d'Istanbul qui protège les femmes contre les violences domestiques et connaît l'un des taux de féminicide les plus élevés au monde. Le parti du président Erdogan envisageait aussi avant les élections de modifier la Constitution pour rogner encore plus leurs droits, notamment sur les pensions alimentaires. Mansour Yavaş a aussi promis de vacciner gratuitement les femmes de moins de 30 ans qui bénéficient d'une aide sociale. Contre le papillomavirus, le coût des 3 doses s'approche du montant du salaire minimum. Les réactions se multiplient depuis ce matin. Enfin, le retour à la civilisation, tweet une avocate. Le parti de Mansour Yavaş, le CHP, a cependant un long chemin à parcourir encore. Sur les 15 000 candidats aux mairies dans le pays, il n'avait que 13% de candidates. C'est toujours mieux que l'AKP, avec 3%, et les islamistes du nouveau parti de la prospérité, qui n'en ont eux présenté aucune.
Il est 12h41, vous écoutez France Culture et le journal de Thomas Cluzel.
Les députés ont finalement approuvé hier en première lecture une proposition de loi écologiste visant à restreindre la fabrication et la vente de produits cosmétiques et textiles contenant des PFAS, ces polluants éternels. En revanche, l'application de cette interdiction aux ustensiles de cuisine initialement prévue dans le texte a été supprimée par plusieurs élus RN, LR et de la majorité, visiblement sensibles aux arguments des fabricants concernant les risques pour l'emploi. Et puis hier, toujours, les députés ont décidément donné du fil à retordre au gouvernement en adoptant, là aussi en première lecture, une autre proposition de loi écologiste en faveur de prix planchers pour les agriculteurs, en dépit donc de l'opposition de la majorité présidentielle. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors ce texte prévoit un prix minimal d'achat afin de garantir un revenu digne aux agriculteurs. C'était d'ailleurs une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, mais qui juge à présent ce dispositif inopérant. Toujours est-il que ce revers ne devrait pas inquiéter l'exécutif outre mesure, puisqu'en réalité, Stéphane, cette proposition de loi n'a quasiment aucune chance d'aboutir.
Non, d'abord parce que la procédure parlementaire est encore longue et tortueuse avant qu'elle n'arrive à son terme. Il s'agit d'une proposition de loi portée par un groupe d'opposition, pas d'un projet de loi soutenu par le gouvernement. Et ça change beaucoup de choses, car rien n'oblige le gouvernement à inscrire une proposition de loi à l'agenda du Sénat. Il faudra donc que le Sénat s'en saisisse lui-même. Et a priori, ce sera là encore dans le cadre d'une niche parlementaire du groupe écologiste. La prochaine est au mois de juin. Seulement, les règles au Sénat ne sont pas les mêmes qu'à l'Assemblée nationale, notamment en termes de durée du débat autorisé. Au Sénat, les écologistes sont peu nombreux et ils disposent d'une niche parlementaire d'une durée de 4 heures seulement, pas d'une journée comme à l'Assemblée. Ils devront donc choisir quel texte ils inscriront à l'ordre du jour. Ils ont prévu de se réunir la semaine prochaine, mais il y a assez peu de chances que ce soit celui concernant les prix planchers pour les agriculteurs, car le choix se fera en fonction de ce qui a des chances d'aboutir ou pas. Or, au Sénat, la droite est majoritaire et elle ne veut pas en entendre parler. C'est une idée socialiste, écrivait le président des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, au mois de février, et c'est par conséquent une très mauvaise idée. Ce texte de loi n'a donc aujourd'hui aucune chance de franchir l'étape du Sénat. Pour ne rien arranger, comme c'est une proposition de loi, elle doit suivre la procédure législative habituelle, pas la version accélérée, c'est-à-dire 2 examens minimum dans chaque chambre du Parlement, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Pour toutes ces raisons, une proposition de loi adoptée lors d'une niche parlementaire a peu de chances d'aboutir si elle n'est pas soutenue par le gouvernement. C'est pourquoi les niches, bien souvent, offrent surtout l'occasion aux formations politiques d'opposition de se faire entendre. Elles servent de tribune politique. Dans les niches, bien souvent, on trouve des chiens qui aboient, commente malicieusement un sénateur. Et celle du groupe écologiste hier à l'Assemblée nationale ne fait pas exception.
Merci Stéphane Robert. Et s'agissant encore des agriculteurs, j'ajoute que la ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher a annoncé une dérogation aux betteraviers pour un usage accru d'un insecticide permettant de lutter contre les pucerons.
Une fois de plus, Jordan Bardella ne participera pas au débat réunissant les têtes de liste aux prochaines élections européennes.
Oui, un débat prévu mercredi prochain sur RFI France 24. Alors la tête de liste du Rassemblement National avait déjà décliné en réalité une précédente invitation sur la chaîne parlementaire cette fois-ci, sans donner d'explication, une décision que regrette, quoi qu'il en soit, la directrice de France 24, Vanessa Burgraff, jointe au téléphone par Antoine Marette.
On a envoyé une invitation à toutes les têtes de liste aux élections européennes. On a envoyé une lettre en bonne et due forme, donc Jean-Marc Four, le directeur de RFI, et moi-même, à Jordan Bardella. Nous n'avons reçu aucune réponse à ce courrier. Nous avons reçu uniquement un SMS de son attaché de presse envoyé à la rédactrice en chef du service Europe qui présentera cette émission, Caroline de Camaret. Voilà, on s'en est tenu à cette réponse très brève et laconique, sans aucune explication. Jordan Bardella a refusé et donc on a accepté la venue de Fabrice Leggeri, qui est représentant du Front National aussi aux élections européennes. On ne pouvait pas faire un débat sans avoir un représentant du Rassemblement National.
Comment vous interprétez ce refus de Jordan Bardella de venir débattre une seconde fois à un débat avec les autres têtes de liste ?
Peut-être que c'est une peur d'entrer tout de suite dans l'arène. Il y a sans doute un choix également stratégique de se faire finalement un peu attendre. Et puis enfin, peut-être la dernière raison, c'est que sur France 24, on va parler beaucoup d'international, de questions d'actualité internationale. Et peut-être on n'est pas suffisamment prêt sur ces questions.
Voilà la directrice donc de France 24, Vanessa Burgrave, jointe au téléphone par Antoine Marette. Emmanuel Macron était en visite ce matin à Paris dans l'école élémentaire Blanche pour échanger avec une classe unité d'enseignement élémentaire autisme. L'occasion pour le président de constater l'avancée de l'inclusion scolaire des autistes, donc, mais aussi d'annoncer plusieurs mesures sur l'éducation. Azaïs Perronin, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a promis aux enseignants ?
Alors Emmanuel Macron a d'abord évoqué donc l'inclusion des élèves souffrant de troubles autistiques. Il a notamment été question des personnes qui aident ces élèves, les AESH, dont le métier est particulièrement précaire. Il a annoncé vouloir reconnaître pleinement ce métier en sanctuarisant un temps complet, c'est l'objet d'une loi. Sur le reste des annonces, la principale concerne la formation des professeurs des écoles. On va mettre en place une forme de prépa post-bac, on va ouvrir des licences dès la rentrée prochaine pour préparer au professorat des écoles, a annoncé le président. Mais pour Guylaine David, co-secrétaire générale du SNUP-FFSU, le principal syndicat du primaire, ce n'est pas une bonne nouvelle.
Nous, c'est quelque chose qui nous inquiète énormément parce que on sait qu'il y a différentes voies d'accès pour être professeur des écoles actuellement et que les étudiants en sortant du bac se dirigent vers différentes voies pour rejoindre ensuite le professorat des écoles. Et on voit bien qu'avec cette licence spécifique, on va resserrer sur un vivier très particulier et qu'on risque d'avoir des problèmes d'attractivité sur ces métiers-là et d'être en tension très rapidement. Donc pour nous, c'est pas une bonne nouvelle.
Guylaine David regrette aussi le manque de dialogue social avec le gouvernement sur ces questions de formation.
Merci Azaïs Perronin.
C'est un fait rarissime. Une magistrate de la cour d'appel d'Agen va être présentée aujourd'hui à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen.
Oui, Hélène Garard avait déjà été placée en garde à vue mercredi. Le procureur de Nice a depuis requis sa mise en examen pour 11 supposés délits ou crimes. La magistrate est mise en cause pour ses prétendus liens avec un membre présumé du banditisme corse lorsqu'elle était en fonction sur l'île entre 2010 et 2016. Les précisions de Florence Turm.
L'ouverture de l'enquête préliminaire remonte à janvier 2021. C'est le parquet de Nice qui en est saisi à la place de Marseille et Ajaccio car les faits visés sont susceptibles de mettre en cause une magistrate précédemment en fonction en Corse. La liste est longue, les 11 chefs retenus pour demander sa mise en examen très lourd, notamment trafic d'influence, détournement de fonds publics, mais aussi association de malfaiteurs et recours au service d'une personne exerçant un travail dissimulé en bande organisée. En l'occurrence, les enquêteurs auraient mis en exergue, à la lumière d'interceptions téléphoniques, la relation de proximité entre Hélène Guérard et Joanne Carta, un individu depuis écroué pour diverses escroqueries. Dans un communiqué de presse très détaillé, le parquet de Nice fait état de travaux réalisés dans la villa que la magistrate occupait au sud d'Ajaccio, également de services réciproques. Hélène Guérard est soupçonnée d'avoir pu prodiguer des conseils juridiques à d'autres personnes connues des services de police, communiquer des informations concernant des procédures en cours, avec à la clé un possible détournement de fonds publics évalué à 120 000 euros pour la réalisation d'expertises fictives. L'ensemble de ces éléments a conduit le parquet à requérir le placement en détention d'Hélène Guérard, décision qui appartient à un juge à l'issue d'une mise en examen. Les avocats de la magistrate dénoncent pour leur part des méthodes violentes et injustifiées, une interpellation à son domicile à 6 heures du matin. Ils s'interrogent par ailleurs sur un éventuel règlement de compte au sein de la magistrature, une opération de destruction dont leur cliente serait victime et dans laquelle, conclut-il, l'autorité judiciaire se permet tous les coups.
On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Couvert au nord, ensoleillé au sud. Quant aux températures, elles afficheront entre 16 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Julie Paco pour le prochain journal de la rédaction.